Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Fabien, tu nous disais que tu n'étais pas très habitué de Twitch. C'est la première fois que tu es...
Ouais, c'est la première fois, ouais.
Et moi, je t'avais entendu dans Génération Do It Yourself, dans tes sorties médiatiques. Toi, tu l'as entendu, celui-là?
Oui, tout à fait.
Sérieux?
Bah, j'écoute des podcasts aussi. Bah, moi aussi, non, je suis start-upper.
Bah non, mais je ne savais pas. Non, hyper, hyper cool interview.
Ouais.
Je pense qu'on va justement
avoir... Stéphane, j'ai bien aimé, ouais.
T'as bien aimé?
C'était cool, ouais.
T'es allé, c'est sur place, ce podcast?
C'est sur place, ouais. Okay.
Moi, j'avais fait le. Ils ont un autre podcast, donc c'est Cosa Vostra. Si vous ne connaissez pas, ils font des super podcasts. Et moi, j'étais allé chez son frère. C'est son deux frères. Et j'avais fait le If This Then Dev. Si vous voulez aller écouter d'ailleurs cette interview, on avait parlé de plein de trucs. On avait parlé des origines de Gabin. Gabin qui était notre petit changement de caméra.
Ouais.
Et donc, on est allé discuter de ça avec eux. C'était vraiment sympa.
Cool.
Je pense qu'ici, on aura. Justement, ce sera sympa. On aura. Une autre vision, là, tu as parlé beaucoup de business, de ton entreprise et donc de l'aspect plutôt entrepreneurial. Ici, ça va être sympa, on va pouvoir voir le côté open source. Comment avoir réussi à construire un mastodonte basé sur l'open source, c'est quand même dingue.
Oui, et on a bien galéré.
Bah non, mais ça va être trop intéressant. Et donc voilà, tout simplement, c'est parti. Est-ce que tu connaissais Hardisk
de vidéo, quoi.
De loin.
Bah oui, mais on a déjà bossé ensemble, surtout.
C'est vrai.
Waouh. Non, mais c'est les boîtes, ça, c'est les grandes boîtes.
Mais c'est vrai que c'est une grosse boîte. Non, mais j'ai déjà été sponsorisé.
J'ai une mémoire de poisson rouge.
J'ai déjà été sponsorisé par Odoo et je le suis encore cette semaine, je crois. Ouais.
Ah oui, mais je suis pas, moi.
J'avais déjà mis en avant et j'avais trouvé l'outil vachement bien. Je sais quoi, je vais faire le pitch parce que je le connais. en très résumé, c'est un outil tout en un pour faire du business en ligne, faire n'importe quoi, comme un site internet ou de quoi que ce soit, administrer ta boîte. Et en fait, je n'avais jamais vu ça avant. Il y a tout dedans. Mais genre, il y a tout. La première application, elle est gratos. Et après, t'as plein d'autres applications. T'as de la facturation, du machin, du marketing. Il y a tout dedans. C'est incroyable. Limite, il y a Deliveroo. Et non, mais c'est vrai, il y a tout, quoi. Et c'est très peu cher. L'offre par rapport au prix, c'est assez incroyable. Je n'avais jamais vu ça nulle part.
Ouais, 19 euros.
Ouais, j'avais pas le prix, peut-être.
Ça fait
par voilà, écoutez. Par mois.
Bah non, mais ça fait plaisir à attendre. Hein.
Ouais. Non, c'est vrai. C'est ça, c'est bien résumé. Hein. C'est là. Un app store pour les boîtes, pour les logiciels, pour les startups, pour les entrepreneurs, les petites boîtes et tout ça.
Et surtout, mais non, mais le truc. Désolé, mais
je t'en prie. Moi, de toute façon, tu sais, j'ai ma phrase d'intro qui est prévue pour juste après.
Ah, donc, bah, bon, ouais. Donc, non, mais surtout, tu sais, souvent, il y a plein d'outils où t'as pas peut-être pas forcément besoin et tout, et il y a plein d'outils que tu pourrais aller chercher à la concurrence ailleurs. Mais là, ce qui est trop bien, et on s'en rend pas compte au premier abord tout le temps, c'est que comme c'est la même suite, tout se parle.
Exact.
Et donc, c'est fini de se casser les couilles à aller copier des sets de data d'un endroit à un autre pour que ça parle avec le plugin WordPress qui n'est pas à jour. Voilà, et des trucs lunaires comme ça. Ça, voilà, bref, bon,
c'est bien, j'ai plus besoin de lire.
Ouais, c'est moi, bon, je te le vends, ton truc.
Donc, je le disais, Fabien, tu es développeur à l'origine et surtout fondateur donc, de Odoo, entreprise belge valorisée à plus de 3 milliards de dollars.
Oh oui, un peu plus maintenant, ouais.
Un peu plus même. Une des plus grandes sociétés du monde qui édite ses logiciels en open source, qui est quand même pas si courant que ça. Tu vas nous raconter justement comment c'est possible, tout simplement, de monter un business open source qui fonctionne. Et on va aussi un peu parler de votre plan, comment vous pouvez potentiellement notamment concurrencer WordPress à terme. Moi, c'est un.
On va essayer. J'en dis pas encore, mais.
Vous avez tellement d'applis. Moi, je propose qu'on se concentre notamment sur cet aspect-là. Comment, avec votre website builder open source, peut-être vous pourriez remplacer WordPress un jour. Avant ça, je te propose de nous raconter un petit peu les origines qui sont assez particulières de Odoo et toi, de comment tu te lances dans l'entrepreneuriat.
Alors, je sais pas si elles sont particulières, je pense que tout le monde fait un peu ça, tu démarres dans ton coin, dans ta chambre, tu développes les premiers trucs, tu vends un logiciel à un copain, puis un autre copain, puis... Et j'ai fait ça, moi j'ai assez tôt, à 13 ans j'ai fait mes premiers logiciels de gestion, Et puis j'ai vendu
t'as fait des logiciels de gestion à 13 ans. Oui,
c'est ça qui n'est pas particulier.
Voilà, par exemple. Tu vois, le mec qui fait le logiciel de gestion de TVA à 13 ans, il est rare quand même.
Bah, je ne comprenais pas la TVA. On me disait, tu fais fois 1,21. Ouais. 21% en Belgique. Ouais. Oui, et puis j'ai fait plein de trucs. J'ai fait un magasin de vêtements, j'ai fait des virus, j'ai fait des antivirus, j'ai fait des jeux, j'ai fait de la 3D, des moteurs 3D. Et puis, il y a un truc qui a mieux marché que le reste, quoi. À force de faire des choses. Et à un moment donné, je me suis dit, j'arrête toutes ces conneries. J'avais un magasin de vêtements, je pliais 5 à 10 000 vêtements par semaine.
Mais j'ai appris ça que Odoo, à l'origine, était. C'était la même entreprise.
Ouais, c'est la même entreprise.
C'est génial. Mais c'est trop
drôle. Elle a changé de nom, hein.
Mais oui, c'est incroyable. Ouais. Okay, à l'origine de la boîte, si tu remontes suffisamment loin, en fait, c'était un magasin de vêtements.
Ouais, il y avait d'autres choses. Il y avait un truc qui était sympa. C'était un antivirus anti-spam qui s'appelait nomoreviagra.com. Et alors tu mettais
pour cleaner ta base.
Ouais, tu mettais sur la réception de ton pop ou ton imap, tu mettais .nomorviagra.com et ça te filtrait les spams et les virus. Alors maintenant il n'y a plus besoin avec Gmail qui fait tout pour toi, mais à l'époque c'était marrant.
Et donc avant que ça atterrisse dans ta boîte, ouais. Ça passait par ton truc.
Et alors il n'y avait pas besoin de s'inscrire parce que du coup ça passait par le pop, je recevais le login, le mot de passe, et puis je repompais et je le redonnais. J'avais pas l'email, j'avais rien, je déposais un email dans leur boîte en disant merci. Ça a jamais marché. Hein. C'était cool, mais ça a jamais marché.
Bon projet étudiant. Et du coup, tu as un des aspects de ton entreprise qui est le côté, comment t'appellerais ça, CRM ou c'est quoi les premières briques?
Non, moi j'ai commencé par les fondements, c'est-à-dire la comptabilité, la relation commerciale, les achats, les ventes, les bons de commande, tout ça. La gestion des stocks. J'ai commencé par le marché des salles de vente publiques. Et les galeries d'art, donc tout ce qui est marché de l'art. C'est devenu assez gros parce que j'avais des sites web pour eux aussi. Je faisais beaucoup d'e-commerce. Et je vendais, il y avait 15 000 œuvres d'art qui passaient par nos systèmes avec un très mauvais business model parce que j'étais étudiant, j'étais très content, mais ça ne rapportait rien.
Donc tu es toujours en études à ce moment-là et tu équipes des
salles de vente publiques qui sont les grossistes du marché d'art. Donc j'avais des gros volumes. Et puis après, je suis passé à l'étape d'après, je me suis dit, je vais faire la gestion de ces salles de vente publiques. Donc là, j'ai fait les bons de commande, les factures, la comptabilité, etc. Et puis ça a marché un peu pourri, ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc il a fallu que je sorte de ça. Et j'ai généralisé, je suis parti vers la gestion de toute entreprise. Quoi. Et puis au début, on a commencé ça comme une boîte de service, donc j'allais chez les gens, je disais, vous voulez quoi? Et puis je développais tout ce qu'ils voulaient. Puis à force de faire ça, pendant 5-10 ans, tu te retrouves avec un logiciel, une hydre à 10 têtes, quoi, avec toutes les features que les clients demandaient, mais qui est horrible, qui est compliqué, qui est lourd. Et puis là, j'ai dû basculer sur un autre modèle... parce que vivre du service, ça tournait pas, ça faisait que plein de features pas intéressantes. J'ai dû passer sur un modèle d'éditeur où on investit en recherche et développement, en maintenance et tout ça.
Et un des aspects les plus étonnants justement de Odoo, qui, on le rappelle quand même, est aujourd'hui une boîte gigantesque. Vous avez plus de 1000 employés.
2500.
2500 employés, valorisés, je le disais, à plus de 3 milliards de dollars. Et à l'origine, le code sur lequel vous tournez est open source.
C'est encore aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui on a deux produits, on a ce qu'on appelle Odoo Community, 80% de nos applications, qui est complètement open source, LGPL, et puis on a Odoo Enterprise qui est 20% d'applications en plus, qui elles sont payantes par contre.
Et c'est dès le début que toi, ton code, tu le mets public?
Ouais, alors dès le début, au début c'était complètement open source, on a grandi jusqu'à une centaine, peut-être 300 employés, en étant 100% open source, on a grandi comme je t'ai expliqué en société de service, mais à un moment donné il a fallu... changer de business model parce que vivre du service et en éditant un logiciel c'est compliqué, t'as pas les bonnes marges. Hein. Une société de service a des petites marges, mais pour éditer un logiciel il faut engager plein de gens, il faut faire du marketing, donc il fallait des plus grandes marges. On a basculé vers un modèle d'éditeur où on s'est dit on va vendre du support et de la maintenance sur notre logiciel open source. Ça a marché 2-3 ans, les gens achetaient des contrats de support maintenance, mais l'année numéro 2 ils se disaient votre logiciel il marche, c'est bien, je paye plus, ils continuent d'utiliser mais ils payaient plus. Donc on n'arrivait pas à construire un modèle de revenu récurrent.
Et donc vous avez dû changer.
Encore une fois de plus quoi.
Ouais, on revient juste après dessus. Avant ça, et je pense que il y a beaucoup de gens qui doivent se demander, est-ce que c'est pas totalement antinomique le fait d'avoir un business, de vendre des choses d'un côté et de l'autre côté d'avoir son code parfaitement public que tout le monde peut utiliser. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment c'est possible, comment ça peut marcher, tu vois.
Bah nous, c'est ce modèle qu'on appelle Open Core où on a 80% de nos applications qui sont open source, 20% payants. Et en fait, les 20% payants financent la totalité de la recherche et développement. Si on peut développer autant d'open source, c'est parce qu'on a les 20% payants. Quoi.
Mais pourquoi ne pas faire, par exemple, du complètement propriétaire? C'est ça la question que plein de gens vont se poser.
Alors, moi, je suis passionné d'open source. Quoi. Donc, c'était même pas une possibilité pour moi. J'ai toujours utilisé de l'open source, développé de l'open source. Je n'allais pas faire autre chose. Si j'en suis arrivé à faire du propriétaire, c'est parce que je n'ai pas le choix. C'est parce qu'on va avoir tout essayé après cette année au bord de la faillite où j'arrivais pas à trouver le modèle qui marche, j'ai dû faire du propriétaire, mais les 10 années d'avance, d'ailleurs, une de mes plus grosses erreurs. Je ne faisais que de l'open source et je disais à la communauté, on ne sera toujours 100% open source, on ne fera jamais de propriétaire.
C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est un aveu d'échec que l'open source et le libre, plus que l'open source même, c'est très compliqué à vendre.
Oui, mais après, il ne faut pas faire un amalgame. C'est dans mon domaine. C'est-à-dire, nous, on est dans les logiciels de gestion, on veut de la comptabilité, des gestions de stock, etc. Il y a plein de choses où tu peux faire l'open source 100% open source qui marche assez bien, quoi. Ouais. Mais effectivement, nous, on avait besoin d'un modèle de monétisation qui permette de supporter un gros investissement en recherche et développement. Ouais. Et ça, avec un modèle de service, ça ne marchait pas. Enfin, en tout cas, on galérait vraiment, vraiment. J'ai essayé de lever des fonds, puis après les levées de fonds, j'ai dû faire une deuxième. Et puis... Mais à un moment donné, il fallait que la société soit financière pour pouvoir continuer à engager des développeurs, quoi.
Ouais. Donc, tu penses que faire du 100% libre, c'est impossible ?
Non, si, ça marche. Tu as des super logiciels. Blender, par exemple, c'est un exemple incroyable. C'est 100% libre. Mais quand tu en arrives à un moment où tu as besoin de centaines de développeurs, c'est chaud, quoi. Hmm. En tout cas, moi, j'ai pas réussi.
Blender, ils gagnent très peu d'argent. Ils ont la chance d'avoir une communauté hyper active de devs.
Et l'équipe core, c'est 20 personnes, quoi.
Voilà, ouais. Qui sont super forts. Et Blender est devenu récemment, il faut l'avouer, l'un des meilleurs logiciels 3D qui existe, quoi. C'est assez vrai.
Tu mentionnais le fait qu'il y a eu une croissance quand même assez importante. Tu te retrouves à recruter des gens, donc avec ce projet qui à l'origine était un projet étudiant. Il y a eu des périodes compliquées.
Toutes. Non, mais en fait, j'ai commencé tout seul. C'est un peu dur. J'ai commencé tout seul, puis de deux, je suis passé à 3, puis 4. Ça, c'est en 4 ans. Hein, donc, il m'a fallu 4 ans pour monter à 4 employés. Et puis, oui, et en fait, sur les... jusqu'à il y a 4-5 ans, où là, ça, vraiment, tout a commencé à bien fonctionner, j'étais en permanence en manque de cash, quoi. Et permanence, c'est-à-dire que parfois, je paye les salaires en retard, des choses compliquées, quoi.
Moi, j'ai une question par rapport à ça. Je présentais tout à l'heure Odoo, parce que moi, j'ai été vraiment, quand on m'a contacté pour en parler, ton équipe, j'étais vraiment convaincu par le truc. Et notamment parce que le pricing est incroyable. C'est un truc qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Autant d'outils qui parlent tous ensemble, qui marchent bien, pour si peu cher. Et c'est peut-être une question un peu rentre-dedans, mais genre, comment c'est rentable ?
Alors, d'abord...
Je ne sais pas si je m'étais dit ça. Le premier mail, je me suis dit, comment ces gens font de l'argent avec un truc à 19 balles aussi énorme ?
Il a fallu le faire pendant 20 ans. C'est-à-dire que tu dois construire un volume qui est que tu compenses le prix bas par des volumes gigantesques. Donc nous, on est en 10 millions d'utilisateurs.
D'accord.
Et tu comprends pas les volumes.
Ça, je trouve ça incroyable parce que il y a beaucoup de gens avec qui je parlais de cette émission qui ne connaissaient pas Odoo. Y a un côté à la fois, vous êtes partout et pourtant, on vous connaît pas tant que ça. Et même toi, t'es pas une figure.
J'imagine
qui...
qu'il y a des démographiques.
C'est du B2B, tu vois. Les logiciels de compta, c'est pas sexy, c'est pas.
Mais
les gens connaissent pas, quoi.
Ouais. C'est fou. Ouais. Et donc, tu fais ce volume incroyable et ça permet de trouver un modèle.
Ouais, et alors, c'est super rentable. Hein. Là, on fait. Le mois passé, on a fait 8 millions d'euros de cash flow positif.
Incroyable, wow, bravo. Donc,
ça marche, mais il a fallu 20 ans parce qu'il a fallu construire une base installée qui est avec des millions d'utilisateurs pour que les volumes compensent les petites marges.
Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée.
Il y a c'est incroyable.
Tant qu'on est sur justement l'entreprise en elle-même, il y a un truc très intéressant, c'est que tu es toujours majoritaire de la boîte. Et c'est un truc auquel tu tiens beaucoup, ça ?
En fait, oui, mais peut-être expliquer pourquoi. Ce que je fais, ça se construit sur des décennies. On n'a pas encore gagné, on fait 0,1% de part de marché. C'est vraiment un truc sur le long terme, pour construire quelque chose d'aussi complet, etc. Et la seule manière pour moi de pouvoir assurer que ça va marcher sur le long terme, que ça restera majoritairement open source, etc., c'est de garder le contrôle. Si ça passe aux mains d'investisseurs ou de VC, etc., je ne suis pas certain qu'on aurait pu faire ce qu'on a fait aujourd'hui dans Odoo. Donc c'était une manière pour moi d'assurer le futur d'Odoo, quoi.
Il y a un autre truc auquel tu parlais, c'est que on a pas mal épluché la presse belge un peu parce que c'est évidemment une des plus grosses entreprises tech de
Belgique.
Oui, j'avoue,
on a les licornes en France qui sont les grosses boîtes tech machin. Non mais laisse tomber, Belgique, vous devez être les plus gros.
Il y a 3 licornes en Belgique.
C'est qui les autres ?
Il y a Chopad, je crois, et j'ai oublié la troisième.
Ok.
En tout cas,
Odoo, oui, c'est forcément.
C'est vraiment un titan. Et on te présente souvent comme l'antithèse de la French Tech. Je ne sais pas si c'est un nom qui te parle, mais est-ce que tu t'identifies comme un start-upper, tu vois, tel qu'on le voit un peu aujourd'hui ?
Ouais, start-upper d'il y a 20 ans. Je vais peut-être changer aujourd'hui, mais Oui, j'ai bootstrappé, donc j'ai pas fait comme tout le monde. On n'a pas levé beaucoup d'argent.
Donc ça veut dire que t'as fait juste avec ton argent au début.
J'ai fait avec mon argent j'avais rien au début, hein, en tant qu'étudiant, mais j'ai fait avec mes moyens. On a levé quasiment pas, et quand on a levé, c'était vraiment très tard. C'est vrai qu'on est très focalisé sur ce qu'on fait. Je vais pas dans des réunions avec d'autres CEO, je vais pas dans des événements. J'ai pas le temps. Je fais que du haut.
Et sur le justement les systèmes traditionnels de monter des entreprises aujourd'hui où voilà, l'objectif, c'est de lever un maximum d'argent. C'est ce qui un peu te donne du crédit social aussi dans l'écosystème, c'est de faire la plus grosse levée. J'ai l'impression que toi, tu n'as pas en tête de faire un exit dans un an de ta boîte et de...
Non, nous, on ne veut pas d'exit. Enfin, moi, je ne fais pas ça pour l'argent. C'est le projet qui m'intéresse.
C'est le projet de ta vie.
Il faut voir, il y a plein de gens qui souffrent dans les entreprises, qui galèrent parce qu'ils font du travail administratif, qui font du réencodage... Et il y a des dépressions au travail à n'en plus finir parce que vraiment les gens sont inefficaces alors que les gens ont envie d'être efficaces, de contribuer, d'amener de la valeur ajoutée dans leur travail. Et ils sont souvent bloqués par des outils, de ne pas avoir l'accès à l'information, etc. Donc je pense vraiment que ce qu'on fait est super important et c'est ça qui me booste. Ce n'est pas les valorisations, les exits ou quoi. C'est le projet, quoi.
Et j'ai entendu notamment qu'il n'y avait pas d'intéressement chez Odoo.
C'est-à-dire
que les employés, comme ça se fait souvent dans les startups, etc., ne sont pas...
Bah, c'est lié, c'est-à-dire que comme il n'y aura pas d'exit, si on donne des actions aux employés, bah, s'il n'y a pas d'exit, c'est un peu une fausse promesse.
Oui, c'est conditionné au fait que tu vends à tes employés que tu vas vendre la boîte 10 fois plus cher.
Ouais.
Non, mais je comprends, c'est assez osé, honnêtement. Dans l'offre de l'emploi, comment tu attires, par exemple, des développeurs? Comment tu fais pour l'intéresser?
Il y a plusieurs choses. D'abord, on a la chance d'être open source et ça marche bien. C'est-à-dire que les développeurs veulent travailler pour des boîtes open source. On n'en a pas beaucoup en Belgique, donc c'est pas mal. Et puis après, c'est comme tout le monde. Il y a le salaire, le fait que le job est super. Comme toutes les boîtes, en fait, c'est pas très différent.
Je pense, mine de rien, parce que du coup, j'avais entendu un peu vos modèles de fonctionnement. Il y a des particularités qui sont marrantes quand même chez vous dans la culture.
Ah, c'est une boîte spéciale, ouais.
Comment tu décrirais la culture que vous avez?
Mais en fait, tout le monde le dit. C'est-à-dire, nous, on a beaucoup d'autonomie, de responsabilité, d'évolution. Toutes les boîtes le disent, mais chez nous, c'est vrai. Vraiment, quoi. C'est-à-dire, un jeune qui démarre, il va être tout seul sur son projet. Et des projets chez nous, c'est transformation d'entreprise. Hein. Tu remplaces la compta, les stocks, les ventes. C'est vraiment disruptif complètement pour une entreprise, pour une PME. Il va tout de suite avoir ses responsabilités complètes. Il va y avoir une évolution très, très rapide. Tu peux interviewer quelqu'un qui a un an d'expérience chez nous. Tu vas te dire, waouh, il a le niveau de quelqu'un qui a 10 ans de consultant dans une boîte ailleurs. Et de l'évolution rapide aussi, parce que ils doivent apprendre tous les métiers, toute taille d'entreprise, toute industrie confondue très, très rapidement. Et donc, ils évoluent assez vite. Et puis c'est surtout, les gens qui viennent chez nous, ils ont l'impression d'être dans un code étudiant ou dans une ambiance campus. C'est
mais
très
alors,
jeune et
il,
c'est...
Il paraît sympa. Que vous êtes dans des fermes.
Ouais, on est dans des fermes.
C'est quoi ce truc? Comment ça se fait?
À l'origine, j'ai pas fait exprès. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'étais étudiant, puis j'ai engagé des gens. On était dans mon petite chambre d'étudiant. Et donc j'avais des gens qui travaillaient à gauche, à droite. Moi je faisais mes examens, eux, mes premiers employés travaillaient sur les logiciels. Et puis j'ai donc pas assez d'espace, j'ai dû louer quelque chose, mais j'avais pas de sous à l'époque, j'étais toujours pas payé, j'avais pas de salaire. Donc j'ai dû louer quelque chose, mais j'ai loué une petite maison. Et puis je me suis retrouvé avec des employés partout, dans la cuisine, dans les chambres. Et moi je dormais dans une chambre.
Airbnb.
Donc j'ai toujours souffert du manque d'espace. Et à un moment, je me suis dit, bon, là, il va falloir acheter quelque chose où je peux grandir, quoi. Mais j'avais toujours pas de sous, on était toujours en galère et j'ai toujours pas de salaire. Et ce que tu peux trouver de plus grand en Belgique sans argent, c'est une ferme délabrée. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé une ferme délabrée qui était toute pourrie.
C'est pas con, hein.
Et puis on l'a rénovée avec la croissance, quoi.
Alors j'avoue que ça ressemble vraiment très peu à une étable, par contre. On dirait vraiment plus...
Alors ça, c'est pas la ferme, justement. Ça, c'est le modèle des fermes à des limites quand tu commences à engager par centaines. Mais
ça, c'est bureau classique. Mais à l'origine, vous avez donc plusieurs fermes et qui ne ressemblent
pas. On a trois l'une à côté de l'autre, quoi. Ouais.
Et ça a été rénové, j'imagine, pour que les gens ne s'imaginent pas qu'il y a des gens qui travaillent.
Il y a parfois une poule, quoi, mais ouais, elles sont rénovées.
Et ce dont on parlait, qui m'avait fait marrer, c'est que ça a eu un impact sur un peu le voisinage, le fait qu'il y ait littéralement des milliers de gens qui se ramènent du jour au lendemain.
Mais on est dans une mini-commune, en fait. Il y a 6000 habitants. Et donc, nous, on a 2500 employés, ça pèse sur une commune de 6000 habitants. Rien qu'en termes de trafic, quoi, c'est compliqué parce que les routes sont...
T'as le bon Dédé en tracteur qui fait sa suze, tu sais, illégale dans le salon, et t'as lui à côté avec sa start-up.
Et puis, même le matin où
Ça me termine.
Tu dois avoir des bouchons dans la campagne.
Ouais, ça va. Après, la commune nous a bien aidé à pour organiser la circulation.
Improbable. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit qu'il est développeur et belge et il demande si Odoo avait créé un casse-tête en bois qui initie un processus de recrutement.
Ouais.
Ça te dit un truc, ça ?
Ouais, alors on a plein de trucs, on a fait plein d'actions pour recruter. Et une des actions qu'on a fait, parce que on n'avait pas les adresses des développeurs, on a pris tous les plus gros contributeurs GitHub en Belgique. On n'avait pas leurs adresses, mais on savait où ils travaillaient. Donc on a envoyé à leur bureau, à leur nom, un casse-tête en bois. Et quand ils l'ouvraient, il y avait tout un casse-tête où ils devaient craquer notre site web avec 10 étapes après derrière. Après, ça a fait un tollé parce que toutes les boîtes se sont énervées quand ils ont vu leur développeur jouer avec des casse-têtes tout dessus. Mais ça a super bien marché. On a explosé le sourcing de recrutement.
Trop malin.
Ouais.
Ah, très facile. Justement, sur la question de vos applications open source, il y en a une en particulier qui est un constructeur de sites.
Ouais.
Et ça, je pense, je voulais revenir un petit peu dessus parce que c'est, mine de rien, un pari assez fort d'aller sur le marché de la construction de sites qui est potentiellement le truc
qui est le marché
concurrence la plus
c'est le marché le plus finito. Ouais.
Alors évidemment, dans les trucs propriétaires, on connaît tous les gros noms qui existent. Dans l'open source, il y a WordPress, le mastodonte, qui équipe quasiment, pour que les gens se rendent compte, quasiment la moitié des sites sur Internet.
Ouais. Hein?
Non,
à ce point-là?
En gros,
63% des CMS, 43% des sites.
43% des sites Internet, c'est du WordPress. Ouais. C'est vraiment incroyable.
Impressionnant.
À quel moment tu te dis, ah ben, on va y aller, on va les manger.
Ça a l'air un peu prétentieux comme ça, mais...
Bah non, mais qu'est-ce qui motive ça?
Non, après, on l'a déjà fait, hein. On a fait dans les logiciels de gestion, on s'est dit, on va s'attaquer à des mastodontes comme SAP, Microsoft Dynamics, et on l'a fait. Donc.
Il y a un côté un peu Marvel, tu sais, genre, un homme belge, seul, face à WordPress et des développeurs d'Amsterdam.
Non, en fait, il y a une opportunité. Si tu regardes sur le marché, t'as trois types d'acteurs. T'as les e-commerce. Et globalement, c'est Shopify aujourd'hui qui est le leader sur les e-commerce. Le problème, c'est que c'est un marché relativement open source. WordPress a gagné, pas parce qu'il est super bon, parce qu'il est open source. Ouais. Et les agences marketing, les développeurs ont besoin de travailler sur des logiciels open source qui peuvent customiser, etc. Ouais. Donc on a ce très bon e-commerce, mais WordPress derrière, qui ne sait pas bien faire de l'e-commerce. Tu as les website builders type Wix, Weebly, où tu peux construire ta page en drag and drop, super sympa pour monsieur tout le monde, parce qu'il peut faire un site sans compétences techniques. Et puis de l'autre côté, tu as WordPress, où son avantage, c'est d'être open source. Et t'as personne qui fait les trois. T'as pas un très bon e-commerce avec un page builder qui est nickel et qui est 100% open source. Et c'est là où on va venir, c'est le pari, c'est que de se dire, mais si on vient avec trois, on a les trois aujourd'hui, alors on a peut-être une chance de percer sur ce marché et de devenir quelqu'un, quoi.
Moi, j'y crois effectivement fortement au potentiel qu'il y a, notamment pour avoir eu le malheur de devoir faire du dev WordPress ou on connaît
un
tous
un peu de PHP
mais alors que pourtant j'ai jamais été formé dessus ou quoi hein. Mais il y a toujours le pote de la tante qui a son portfolio sur WordPress qu'il ne marche plus et donc on appelle Bibi à l'aide évidemment et là
est-ce que le W3 Total Cache a rempli tout le disque dur.
J'ai passé des nuits blanches sur cet outil, je le déteste. Ouais. Non, mais je comprends que
ils ont le mérite, ils ont fait quelque chose de bien quand même.
Exactement.
Ce qui va être très compliqué à attaquer, c'est que WordPress pour moi il est fort parce qu'il y a plein de tutos, il y a plein de plugins.
Oui.
Et
c'est
ça qu'il va falloir construire quoi.
Il y a une grosse communauté qui est bien attachée à WordPress. Mais alors on a l'avantage qu'on a aussi une communauté qui vient pas du même monde, qui vient du monde de la gestion d'entreprise, mais qui est assez grosse. On a quand même 63 000 applications, donc ces gens savent développer. À peu près 100 000 temps plein qui bossent sur Odoo. Et qu'on essaye de faire basculer sur la partie website également. Quoi.
Et en fait, moi, j'ai envie de dire que c'est un double tranchant, la communauté. C'est-à-dire que WordPress a effectivement une très grande communauté. WordPress a effectivement énormément de plugins. Je suis fasciné de voir que même des plugins très populaires, etc., si tu regardes en termes de qualité de construction, de qualité de code, de qualité de SEO, c'est cracra. C'est vraiment le fait que ce soit aussi accessible. Et c'est ce que beaucoup de gens disaient sur PHP aussi. C'est le fait que l'accessibilité du langage, c'est pas le langage qui est mauvais, PHP c'est un super langage, surtout récemment, c'est que le fait que ce soit très très accessible aux débutants, etc.
Oui, il y a plein de codes PHP nuls.
Et WordPress, c'est ça, t'as tellement de plugins et de thèmes qui sont sous-optimisés, enfin c'est infâme. Pardon, oui. C'était mon...
Ils ont une stratégie où ils ont un core et puis beaucoup vient avec les modules. Nous on a une stratégie un peu différente où on se dit beaucoup doit être en standard, avec la qualité d'un éditeur. Et les modules, bien sûr, sont importants, mais qui est beaucoup plus en standard. Quoi. Comme ça, les gens ne doivent pas normalement installer plein de modules communautaires. Quoi.
Ouais.
Ou pas trop, juste pour vraiment les cadres compliqués. Quoi.
Tu l'as testé les outils, je crois que tu avais un commentaire aussi sur l'expérience d'usage.
Ouais, non mais alors c'est pas seulement sur le website builder, moi c'est sur l'ensemble d'Odoo, c'est le point d'amélioration que j'aimerais trop voir, c'est sur l'UI général de l'outil. Est-ce que je trouve que tu vois, c'est aussi un retour que j'avais eu de ma communauté quand j'en avais parlé, c'est que tu vois, c'est déjà ça fait très pro parce qu'en même temps, c'est l'historique de la boîte depuis 20 piges.
Bah oui.
Mais tu vois, tu as des gens sur un website builder, c'est pas des gens qui ont un service comptabilité. Tu vois, donc ils n'ont pas le même genre d'UI UX de machin. Et je ne sais pas si c'est un truc sur lequel vous bossez, sur le design complet de la plateforme Odoo, du sélectionneur d'applications.
L'expérience très utilisateur, un peu plus noom. Enfin,
et d'ailleurs, ce qu'il faut dire, public, c'est que sur l'éditeur de site, qui j'ai l'impression a été fait plus récemment, le parcours d'onboarding, c'est ultra con, hein, mais les boutons sont complètement différents. Il y a des petites animations de jQuery, machin, nanana. Tu sens que ça, ce produit, il a été fait plus récemment, qu'il est plus à jour en termes d'UX, tout comparé au reste. Tu vois, ça se voit vraiment la différence entre les deux. Je sais pas si c'est un truc que tu vas appliquer à toute la boîte.
Oh oui, en fait, l'UX, c'est notre cheval de bataille depuis 10 ans. Hein. Le truc, c'est qu'on fait tellement que c'est une montagne, quoi. Donc il y a vraiment beaucoup à faire. Et en fait, on est, si tu veux, par rapport au logiciel très simple ou à des jeux, on est un peu en retard en UX. Et par rapport à des logiciels de gestion très tout intégrés, on est super en avance.
Ça, c'est clair. On se retrouve. Les mecs qui viennent d'un monde, oui.
Mais les trucs comme le website builder, il a sa propre UI. Parce que c'est très différent. C'est pas une CRM ou une comptabilité, quoi.
Et donc, effectivement.
Parce que non, il a raison. Là, il faut rappeler que si vous allez à la Fnac, par exemple, à la Fnac, le logiciel qu'utilise les caissiers, il est sur un émulateur MS-DOS. Aujourd'hui.
c'est réel.
On vient de là. Tu vois. Mais vraiment, hein, c'est.
On demande dans le chat si on peut auto-héberger une solution Odoo pour sa boîte.
Bah oui, c'est open source, donc tu le télécharges et tu l'installes.
Voilà.
Alors on a les deux, même la partie payante. Merci. En fait, on la traite comme la partie open source, c'est-à-dire ceux qui l'achètent les 19 euros par utilisateur, ils reçoivent les codes sources, ils peuvent l'héberger, le modifier, tout ce qu'ils veulent, donc on traite les deux de la même manière.
On peut l'auto-héberger et avoir du support d'Odoo si on paye.
Oui, c'est ça. Ouais. Okay, dans c'est la ça, partie ouais. payante, c'est support compris. Quoi.
Ok. C'est une question.
Non, mais premier degré, moi je suis vraiment chaud de. En plus, récemment, je me suis lancé dans une passion auto-hébergement qui est à la fois très marrant et très chronophage.
Ah, ça prend le temps.
Moi aussi, en même temps que toi.
C'est vrai. Ouais. Mais en fait, j'ai découvert justement à la fois pourquoi ça existe, les solutions un peu tout en un, et à la fois pourquoi.
Mais je trouve qu'un nerd devient vraiment un homme le jour où il essaye d'héberger un serveur mail. Et qui, et qui l'abandonne.
Oui. Et qui fait les déquis.
Les déquis, c'est enfer.
C'est la pire chose à essayer.
Quel enfer.
Il y a un outil que je ne sais pas si tu le connais, et je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, Fabien. Ça s'appelle Cap Rover. J'ai découvert ça récemment. S'il n'y a pas encore de plugin pour Odoo, franchement, je suis chaud de le faire personnellement. Puisque le principe, c'est que ça te permet de faire du PaaS, comme on dit, donc Product as a Service, sur ton propre serveur. En gros, le concept, c'est de dire, tu vas comprendre.
J'ai le petit singe qui fait des cymbales là.
T'inquiète,
dans ma tête.
Tu vas comprendre. Un des trucs très très sympas avec certains hébergeurs, certaines solutions, c'est qu'ils te font un peu du tout en un, tu vois. Donc tu cliques sur un truc et hop, ça t'installe un serveur mail, justement. Tu cliques sur un bouton et puis il peut directement t'installer une solution de blog. Genre Ghost, tu vois, le blog par excellence. C'est pour ça que c'est trop bien. Là, ils se sont dit, c'est relou qu'on puisse pas faire ça en auto-hébergé. Donc, tu as une super interface hyper jolie qui ressemble à ça.
Je connaissais pas.
Cap Rover, comme ça. Et en gros, si tu vas dans Appli, tu peux avoir directement des applis en one click. Donc là, tu vas installer un AdGuard, tu vois, donc un ad-bloqueur pour tes appareils. Tu cliques sur un bouton Install et ça t'installe une instance sur ton serveur.
Mais c'est du Docker.
Préconfiguré, exactement. En réalité, derrière, c'est un truc qui s'appelle Docker et qui permet tout simplement d'avoir tes petites applis comme ça. Donc, je pense pas qu'il y ait encore Odoo, quoique parfois la communauté les implémente. Donc, mais si ça y est pas, moi je suis chaud de le faire parce que j'utilise ça maintenant et c'est vraiment très très pratique.
Qu'est-ce que tu as auto-hébergé ?
Par exemple, un gestionnaire de mot de passe,
j'aurais trop peur de ça. Moi.
Tu sais, un Bitwarden, ça se fait très très bien. Okay. C'est la même version qu'ils ont eux sur leur serveur en réalité. Donc,
ouais, mais en cas d'incendie, il faut que tu aies un bon backup. Quoi.
Oui, voilà, exactement. Bon, bref, pardon, c'était une petite aparté, mais en tout cas, sur l'auto-hébergement, c'est, pour répondre à la question dans le chat, c'est totalement possible. Vous pouvez le faire là si vous voulez pour vous amuser. Je voulais un peu revenir sur les histoires que tu as eues assez improbables, notamment sur le pilotage de la boîte et la gestion de comment tu gères un board, par exemple. Je sais que notamment que tu as un historique qui est un peu mouvementé au pilotage de la boîte. Est-ce que tu peux nous raconter ça?
Ce que tu peux dire. Oui, on peut tout dire. C'est pas... en fait, moi, j'ai dû apprendre ça. C'est-à-dire que quand tu commences, tu es entrepreneur, tu es le chef de ta société avec tes collègues et tout ça. Et puis, quand tu fais ta première levée de fonds, il faut commencer à construire un conseil d'administration. Et donc, les investisseurs arrivent, tu dois trouver 2-3 personnes et tu crées un conseil d'administration. Et normalement, le conseil d'administration est au-dessus du CEO et décide du CEO. Et puis... et donc moi j'ai pris ça très à cœur. Je me suis dit voilà, il y a le conseil d'administration dont je faisais partie, hein, mais on était plusieurs. Et moi en tant que CEO, j'essaie de les satisfaire, et etc. Ce que j'avais pas pigé, c'est que les actionnaires sont au-dessus du conseil d'administration. Il m'a fallu du temps pour piger. Et moi voilà, j'étais l'actionnaire majoritaire. Donc le moment où j'ai commencé à avoir des problèmes avec le board, j'en ai vraiment souffert. Et j'avais pigé, je connaissais la loi, etc. Mais je l'avais pas bien intégré que en fait. J'étais actionnaire, j'aurais pu en licencier ou quoi que ce soit. Alors aujourd'hui, je rassure tout le monde, on a un chouette board, mais j'ai eu un board mouvementé avec des tentatives de prise de contrôle d'entreprise, ce genre de choses. Quoi.
Mais alors, moi qui suis un peu novice justement dans cet aspect-là de grosses entreprises, entre guillemets, ça ressemble à quoi en fait à une tentative de prise de contrôle de ta boîte?
Alors moi, comment ça s'est passé? C'est on n'avait plus de cash. Et il fallait donc moi j'ai cherché de l'argent à faire revenir dans l'entreprise pour payer les salaires et compagnie. Et j'ai proposé au board, voilà, on a 700 000 euros à réinjecter dans l'entreprise. Le board a refusé. Il a dit non. Et donc on n'a plus de cash, on n'avait plus payé les salaires, donc c'est vraiment compliqué. Et puis les deux investisseurs qui ont refusé sont venus. Mais on a une proposition d'injecter 2 millions d'euros dans la société avec une valorisation qui était bien plus basse que ce que...
Ah oui.
Quand ils étaient rentrés, en gros, ils prenaient 30-40% de la société comme ça. Et ce qui nous a foutu dans la merde. Alors bien sûr, on ne l'a pas accepté, hein. Mais voilà, ça ressemble à ça.
Oh, angoisse.
Et là, c'est la partie simple, mais la réalité, c'est quoi? C'est que tu as beaucoup de pression psychologique, tu ne dors plus, ça dure des mois, cette discussion, tu as des avocats, des machins, des trucs, et que pendant ces mois-là, toi, tu essayes de faire survivre la boîte, quoi. Tu essayes de payer tes salaires, de faire que l'argent rentre.
Dire bonjour à tout le monde le matin.
Ça, c'est
avec
le truc
sourire,
du dessus, quoi. C'est le truc que tu fais sur le côté, mais qui pèse beaucoup, quoi.
Et alors, justement, ensuite... Bah, t'as appris sur le tas, comme tu disais, t'as pas de...
Ah bah là, à un moment donné, après quelques mois de discussion où j'en voyais plus le bout et on n'arrivait pas à se mettre d'accord, etc. À un moment donné, je me rappelle très bien de cette nuit-là, vers minuit, je suis rentré un soir chez moi, j'ai dit j'en ai marre de toutes ces conneries. Et j'ai commencé à faire la liste des gens que j'allais licencier. Et je me dis, dans quelques semaines, je me mets à l'équilibre. Quoi, et
est-ce que tu avais un petit verre de whisky avec du smooth jazz derrière? Quand tu faisais le Death Note, là, tu sais.
Non, on en rigole, mais c'est horrible. C'est vraiment horrible parce que c'est la première fois de ma vie où j'ai licencié des gens que je voulais pas, quoi, que j'aimais bien. Mais c'était juste nécessaire pour la survie de la boîte parce qu'il n'y avait plus de capitaux étrangers qui allaient rentrer. Et il fallait qu'on devienne à l'équilibre. Quoi.
C'est à ce moment-là où du coup, tu as notamment pris des décisions sur... la gestion de justement l'open source et du propriétaire, tu trouves un équilibre un petit peu plus
harmonieux. Non, ça c'est arrivé après. Ça c'est vraiment 2-3 ans après.
Mais
c'est lié, c'est-à-dire que j'avais pas le bon business model, donc j'ai souffert pendant des années parce que j'avais pas le bon business model. Quoi.
Et justement, la question que j'allais poser, c'est maintenant que tu as trouvé quelque chose d'un peu plus équilibré, que ta boîte va mieux, est-ce que tu as eu un contre-coup de la communauté de l'open source?
Alors, ça, c'est ce qui est marrant, c'est que. C'était vraiment un mauvais calcul de ma part. Mais avant la communauté, mais je vais parler quelque chose de lié. Moi, j'étais passionné de l'open source, je voulais faire que de l'open source. Et c'était 100% open source. Et voilà, on a construit une communauté sur cette idée de dire on va faire le logiciel 100% open source, etc. Après, je les ai tous déçus parce qu'à un moment donné, j'ai dû changer d'avis. Et de dire bah, désolé, les gars, maintenant, 80%, tout ce qui est open source, c'est open source, bien sûr. Mais on va ajouter 20% de fonctionnalités payantes. Tout le monde s'est énervé, c'était la guerre, etc. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'en fait, de faire ça, ça m'a permis de faire x10 sur les équipes de développement, parce que du coup, j'avais des rentrées d'argent, j'ai pu engager 10 fois plus de développeurs, et aujourd'hui, je contribue 10 fois plus à l'open source que ce que je faisais à l'avant, où on n'était que 100% open source, alors qu'aujourd'hui, on n'est que 80%. Donc c'était vraiment un très mauvais calcul de ma part, c'était vraiment par idéologie, et non pas... en fait, la manière d'arriver à ce que je veux faire, de contribuer à l'open source, maintenant, on y arrive mieux, alors qu'on l'est pas complètement, quoi.
C'est-à-dire que les gens étaient très fâchés du fait que...
Alors, la communauté, effectivement, c'était l'enfer. C'est-à-dire que... Ben, je les comprends, hein. Franchement, on les a déçus. C'est-à-dire que pendant des années, on a dit, les gars, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et à un moment donné, on a dit, bah non, finalement, on va changer de business model, on va pas faire... Et ils ont été furieux. Si j'avais été plus
prudent,
clair au début, par exemple, j'aurais dit, le business model dans le futur, c'est qu'on va devoir trouver une manière de rémunérer la société pour être durable sur le long terme, etc. Je pense que tout le monde l'aurait compris. Mais comme le discours n'était pas celui-là au début, il y a eu, même encore aujourd'hui, il y en a des gens qui nous reprochent cette décision d'il y a quelques années, quoi.
Tu as toujours aujourd'hui de l'hostilité du...
Alors maintenant, il n'y en a plus beaucoup, mais de temps en temps, il y a un gars qui sort un truc. Oui, mais vous...
vous êtes passé de l'autre côté.
Voilà. Voilà.
Ouais. Ouais, ouais, on... Je peux l'imaginer, en tout cas. Ouais. Y a un truc qui est hyper intéressant, c'est le fait que, à l'époque, comme tu disais, c'est comme si vous aviez un petit gâteau, où 100% était open source.
Ouais.
Maintenant, il y a un pourcentage moins important.
Maintenant, c'est 80%, mais j'ai une grosse tarte. Quoi.
Mais exactement, le gâteau a été décuplé.
Ouais.
Notion qui n'est pas forcément intuitive pour tout le monde et qui peut créer justement des frustrations pour rien.
Ouais.
J'allais faire une blague, fait qu'effectivement Notion c'est pas intuitif, mais c'est
Notion pour le logiciel.
Alors on fait une alternative à Notion aussi, qu'on vient de lancer.
Sérieux?
Ah, est-ce que ça marche?
Alors on vient de la lancer il y a 3 semaines, donc on n'a pas encore beaucoup de retours, mais
non, mais est-ce que le programme fonctionne?
Alors, on n'est pas aussi bien que Notion. Alors t'as des critiques sur Notion.
J'allais dire, si le vôtre s'ouvre déjà, je pense qu'on est vraiment pas mal.
Okay. C'est pas mal.
Mais on a notre V1, donc il faut le temps un peu que.
Hyper intéressant. Alors donc c'est un gestionnaire de documents intelligent.
Ouais. Comme Notion. Alors, en fait, on a copié Notion, hein, c'est simple.
Ben non, mais il faut.
J'adore ça.
Ben non, mais il faut, objectivement, ouais. Des gens qui ont fait quand même des avancées significatives, ouais, sur l'expérience utilisateur.
Ils étaient plus avancés que nous sur le domaine, donc on les a copiés complètement, mais alors on les a intégrés au reste. Donc, tu as des trucs du style, tu es en relation commerciale, un bouton, tu arrives dans la base de connaissances, ça revient pour ton email, ça remplit ton opportunité pour faire la qualification du prospect. Oh, donc, tout est connecté, quoi.
Oh, c'est trop bien. Attends, et est-ce que. Je me suis toujours demandé si.
Tu vas le faire quitter Notion.
est-ce que tu peux avoir de l'automatisation à l'intérieur d'Odoo?
Oui, on a ce qu'on appelle le Odoo Studio, qui est une app pour créer des apps ou customiser des apps. Où tu peux drag and drop, faire tes écrans, faire quand il se passe ça, je fais ça, etc., etc.
Et donc tu pourrais intégrer un bout de base de données dans ton Notion-like, entre guillemets,
oui,
par exemple.
Tu peux construire tes propres tables.
Oh là là là. Pardon, mais non, c'est tout ce que j'ai toujours voulu, vraiment. C'est ce que je reproche aussi un peu à Notion, c'est le manque de customisation. En tout cas, beaucoup de...
Ah ben on le voit là, ça c'est le nôtre.
Trop bien. Ouais. Bah oui, effectivement.
C'est littéralement Notion.
Oui.
Bah non, mais on reconnaît les bons patterns. Et
là, il y a le chat avec vidéoconférence. Tu peux...
Bah, il manque un chat dans Notion. on est d'accord qu'il manque un chat dans Notion.
Alors, je t'avoue que si je dois ajouter encore une application de chat dans ma vie, je pense que je vais me jeter d'un pont.
Mais pour le remplacer, pas remplacer ton Slack.
Mais non, parce que t'as toujours deux enfoirés qui vont pas aller dessus.
Mais pas dans ta boîte.
Ouais, ouais, en fait, quoi. Nous, on travaille dans l'équipe des employés. Quoi, donc. Ouais.
En tout cas, beaucoup de gens très, très intéressés et contents de t'entendre. Un entrepreneur honnête intellectuellement, c'est pas courant. Et ouais, c'est surtout la transparence qui revient le plus. C'est ça qui ouais, je pense, fait plaisir.
C'est le caractère open source aussi. Mmh. Toujours communiquer. Mais c'est ce que font toutes les boîtes open source. Quoi. Voilà.
Je crois que, par exemple, on peut savoir quel est, en gros, le salaire moyen dans les équipes de Odoo avant d'être embauché.
Oui. Alors, sur notre site web, si tu vas sur odoo.com/jobs, tu peux voir la moyenne des équipes. Donc, tu dis, moi, je suis développeur, 4 ans d'expérience, et tu vas voir la moyenne de combien sont payés les gens.
En régie, tout de suite.
Alors, j'espère que ça marche en France, parce que c'est pour la Belgique.
Ah oui.
Je pense que oui, je pense que ça marche.
On a payé Belgique.
Un sombre / BE dans l'URL.
Et là, il y a configurateur en haut à droite, là, la régie. Le
et
bouton
vous
vert.
Sortez le salaire du PDG,
attends,
s'il vous plaît.
Et là, tu mets un développeur qui a 5 ans, par exemple. Et alors, tu vas pouvoir configurer ton salaire. Combien de jours de congé
ans,
tu veux
bon.
5 ans, tu mets. Voilà. Et tu vas pouvoir choisir ta voiture de société. Est-ce que
non,
tu
mais stop, mais quoi
sérieux, ça
si, regarde là.
Quoi
donc,
non,
t'as,
mais là,
t'as
où
le brut à droite, le net à gauche, et puis là, tu peux configurer tes options pour ton salaire.
Attends, mais tu le vois en temps réel.
Tu le vois en temps réel. Donc, tu cliques sur Company Car, tu peux choisir ta voiture, par exemple, si tu veux une Tesla. Et après, le net va diminuer hein, si tu prends une Tesla, mais...
Non, mais tu choisis, quoi.
Ouais.
Non, mais là où t'es un génie, c'est qu'en fait, t'as automatisé ton recrutement RH. C'est incroyable. Il y a littéralement un questionnaire, ouais. Ça me fume.
Mais
en fait, avant, on avait des problèmes. Il y avait plein de négociations. Et si je prends une voiture comme ça, j'ai combien? Et si je fais ça, j'ai combien? Bah, enfin,
arrêtez de faire chier.
De salaire,
mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si les gens dans ta boîte veulent changer, est-ce qu'ils veulent plus de jours de congé?
Ils passent par le même formulaire, ils choisissent tout et puis voilà.
Et c'est automatisé.
C'est automatisé, ouais.
Et
on fait la paye et tout.
Ouais. J'avoue que c'est une super question.
Et ça, c'est une app Odoo. Hein.
Mais Odoo utilise Odoo.
Ben oui, c'est une app Odoo, ça.
Génial.
Trop, mais... c'est trop bien.
Et derrière, il y a tout. Par exemple, tu peux choisir la voiture, c'est lié avec la gestion de flotte. On gère les flottes de véhicules, on gère tes congés. Enfin, tout est lié, quoi.
Mais t'as des gens qui font de la gestion dans ta boîte ou... ou pas?
C'est beaucoup des développeurs, en fait.
Non, mais sans déconner, genre, t'as un service légal
ou... T'as deux mecs sur Odoo.
Non, on a des services, par exemple, pour la paye et le HR, on a deux personnes, mais deux personnes pour 1000 employés, c'est pas grand-chose, d'habitude, t'en as besoin de 10 ou 15.
Ce sera peu, hein.
Mais parce que la manière dont on travaille, c'est on fait des apps pour faire gagner du temps à tout, quoi.
C'est incroyable, franchement. Mais je pense que ça fait un peu rêver tout le monde. Malheureusement, je vous refroidis un tout petit peu. La paye, c'est pas en France. En tout cas, pas pour l'instant.
Bah, postuler en Belgique, quoi.
Allez, postuler en Belgique, c'est ça.
Pour une raison légale ou...
Non, c'est parce qu'on n'engage qu'en Belgique.
Bah, attends, mais t'as vu la complexité aussi de... Ouais. Non, mais pour créer une application de paye...
De paye, ouais, c'est un enfer.
Ah, on a des modules de paye France. Hein.
La compliance.
C'est juste que nous, on n'engage pas en France, mais...
Oui.
Mais on a des modules de paye France aussi, quoi.
Par exemple, aujourd'hui, qu'il y a une entreprise qui a un PayFit ou un truc comme ça, ils peuvent...
Oui, alors le problème, c'est que nous, on n'a pas le service qui va avec, c'est une app, quoi. Et en général, les entreprises qui utilisent l'application ont besoin de service. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a juste les grandes entreprises qui ont un département HR qui utilisent notre module de paye, les autres continuent à travailler par des boîtes de service.
Question que les gens peuvent se poser dans le chat. Je suis déjà chez plusieurs de vos concurrents pour des outils, ce qui est le cas de beaucoup de gens.
Parce qu'ils font tout.
J'ai différents outils. Ouais. Je veux passer à Odoo. À quel point c'est facile de switcher, de transférer mes données,
Ça dépend quoi. Tu veux une CRM, c'est instantané, c'est super simple.
Ok.
Tu veux une comptabilité.
Qu'est-ce qui est chiant au contraire?
La compta. Okay. Parce que le comptable est chiant. Parce que c'est des vieilles habitudes.
C'est pas une
raison technique. Non, parce que la compta est vraiment nickel, mais il faut importer les données. Il y a plusieurs. Quand tu fais de la compta, tu veux importer tout l'historique. Alors c'est pas compliqué, mais ça prend quelques jours, quoi.
Ok.
Qu'est-ce que, si tu pouvais nous, en conclusion, nous donner un petit peu ta vision pour les 5 prochaines années, où est-ce que t'aimerais, qu'est-ce que t'aimerais conquérir?
Le website e-commerce. Genre 20% des sites web, ça me plairait bien, quoi. On est à 0,1% aujourd'hui, hein, donc il y a encore du boulot.
0,1%?
Ouais, 1 sur 1000. Ouais.
C'est déjà énorme.
C'est énorme, attends.
C'est énorme, mais c'est pas énorme en même temps.
Non, mais 0,1% des sites web fait avec ta solution aussi, c'est quand même gigantesque.
On commence, quoi. Mais on a 1 pour 1000, quoi.
Tu sais quoi, on te réinvite. Et on verra si on...
Il me faut 5 ans.
5 ans, 5,
10 ans, on verra.
On peut faire des checkpoints.
Faites-nous des modules paiement crypto. Moi, je fais mes demandes.
Je vais faire sa liste de features demandées.
Je fais mes features requests.
Très, 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 très bon retour, en tout cas, de votre part. Si je sais que je n'ai pas pu voir toutes les questions. Une dernière, vraiment, de Black Ever pour terminer. J'en profite pour poser la question. On fait comment pour récupérer les lignes du CRM dans l'app tableur? Ah non, c'est très précis. Pourquoi j'ai lu cette...
Ça, c'est les mails du SAV. Ça n'a rien à voir.
Ouais, petite question pour finir. Non, c'est beaucoup trop précis.
Non, mais enfin, en vrai, c'est vraiment au premier degré trop bien. Moi, j'ai été convaincu direct.
Et grave intéressant. Et en tout cas, vous embauchez si jamais il y a des...
On embauche 180 par mois. Personne.
Message est passé. Le message est passé. Je répète. Est-ce que les gens ont des casse-têtes en bois pour rentrer ou...
Il n'y a pas besoin.
Pas nécessaire.
Mais on en a si vous voulez, oui.
Allez chérie, à vos formulaires.
Après, il est assez cool si tu vas sur odoo.com, tu vois le code source de la page et le challenge commence là. Donc si tu n'as pas le casse-tête, tu peux commencer avec le code source de la page sur odoo.com. Et en fait, le truc, c'est de hacker notre site web.
Alors, notre hacker préféré, Zax, demande s'il y a un bug bounty qui est prévu un jour.
On en a un, ouais, déjà.
D'accord.
Y en avait un qui a été stoppé il y a 2-3 mois parce qu'on a foiré la négociation légale du contrat avec Integrity. Mais on le relance dans quelques semaines.
Alors, si ça se trouve.
Là, t'as un Odoo Challenge.
Odoo Challenge. Mais c'est des génies. Je crois qu'en plus, on avait fait. Moi, j'ai le souvenir d'avoir déjà fait ça.
Il y a 11 étapes et tu dois arriver à. Voilà, c'est un challenge technique un peu.
Ok.
Bah, j'adore ce truc-là, moi.
Vous savez où aller. Ça se trouve, il demandait si c'était peut-être une appli pour gérer le bug bounty. Ça se trouve, j'ai mal compris la question.
Ah, ça nous, on passe par une plateforme parce que les white hackers sont sur la plateforme, en fait.
Oui, ça qui est intéressant. Trop bien. Ben, un gros GG pour tout ce que tu as fait.
Ouais, très cool.
Franchement, c'est ça que moi, je trouve fou. C'est qu'on ne réalise pas que tu es quand même à la tête d'une entreprise gigantesque. Et tu
m'as fait... Je n'ai pas fait tout seul. Hein. Il y a une super équipe derrière.
J'essaie, mais c'est trop bien de voir que... Ben, on peut discuter de tout.
Et que tu viens dans l'émission,
c'est trop cool. Et que tu viens chez nous, ça fait trop plaisir. Franchement.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Easier said, done.